J'espère que vous m'entendrez, mesdames, messieurs, malgré le rideau de fer des journalistes, des photographes. Nous sommes permis de vous inviter aujourd'hui, comme nous l'avions fait il y a maintenant 13 ans, 1975, au moment des événements aussi qui nous frappaient, et des événements difficiles entre Rome et Cône. Nous sommes de nouveau, on pourrait dire, un été chaud. C'est pas encore l'été, mais enfin, c'est déjà un été un peu chaud. Je voudrais avant d'en arriver tout de suite aux événements de ces jours-ci, de ces derniers jours et des jours prochains, je voudrais d'abord vous faire un tout petit exposé pour que vous compreniez mieux et que dans les rapports que vous passiez dans les journaux, vous puissiez faire autant que possible des rapports bien objectifs sur la situation. Et il faut placer les événements qui se passent aujourd'hui et qui vont se passer demain, et particulièrement le 30 juin, à la consécration épiscopale de quatre jeunes évêques. Il faut les placer dans un contexte, n'est-ce pas ? Dans le contexte de nos difficultés avec Rome, non seulement depuis 1970, depuis la fondation des Cônes, mais depuis le Concile. Nous avons lutté au Concile, moi-même et puis un certain nombre d'évêques, nous avons lutté contre le modernisme et contre les erreurs que nous estimions inadmissibles et incompatibles avec la foi catholique. Voilà le problème de fond, c'est cela. C'est une opposition formelle, profonde, radicale contre les idées modernes et modernistes qui sont passées à travers le Concile. Vous me direz, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, je vais vous citer quelques sujets de ce modernisme. Ce sont, par exemple, c'est l'acceptation des droits de l'homme de 89. C'est le droit commun dans la société civile de toutes les religions, c'est-à-dire le principe de la laïcité de l'État. C'est l'œcuménisme ou l'association de toutes les religions. C'est Assise, c'est Kyoto, c'est les visites à la synagogue, au temple protestant. Et dans l'Église, c'est la collégialité avec les synodes, les conférences épiscopales, le changement de la liturgie, le changement de la catéchèse, l'augmentation de la participation des laïcs et des femmes dans les domaines religieux. Enfin, vous connaissez cela, vous en avez parlé dans les journaux, vous connaissez bien ces choses-là, puisque tout cela a apparu à l'occasion des synodes de Rome. C'est la négation du passé de l'Église. Il y a un combat qui est mené dans l'Église pour faire disparaître le passé, la tradition de l'Église. Cette persécution continuelle contre ceux qui veulent demeurer catholiques comme les papes qui l'étaient avant Vatican II. Voilà notre position. Nous continuons ce que les papes ont enseigné et ont fait avant Vatican II. Et nous nous opposons à ce qu'ont fait les papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II actuellement, parce qu'ils ont fait une rupture avec ces papes, leurs prédécesseurs. Nous préférons la tradition de l'Église à l'œuvre de quelques papes qui s'opposent à leurs prédécesseurs. Cependant, nous avons voulu garder le contact avec Rome au cours de ces années, depuis 1976, au moment où nous avons reçu la suspense ad divinis, parce que nous continuons à faire des ordinations sacerdotales. Nous avons voulu garder le contact avec Rome, espérant que la tradition retrouverait un jour ses droits à Rome. Mais ce fut peine perdue. Alors, devant le refus de Rome de prendre, en considération nos protestations et nos demandes de retour à la tradition, et devant mon âge, car j'ai maintenant 82 ans et je suis dans ma 83e année, il est évident que je sens la fin à venir. Il me faut un successeur. Je ne peux pas laisser ces séminaires, ces 5 séminaires à travers le monde, sans évêque pour ordonner ce séminariste. Et puisque on ne peut pas faire de prêtre sans évêque, et que tant qu'il n'y a pas d'accord avec Rome, il n'y aura pas d'évêques qui accepteront de faire les ordinations, donc je me trouve dans une impasse absolue. Donc j'ai un choix à faire, ou bien mourir et laisser mes séminaires comme cela dans l'abandon, laisser mes séminaristes orphelins, ou bien faire les évêques. Je n'ai pas le choix. Alors j'ai demandé à Rome, demandé plusieurs fois, laissez-moi faire des évêques, permettez-moi d'avoir des successeurs. Et c'est pourquoi, le 29 juin dernier, j'ai fait une allusion claire dans ma prédication ici à Écône, ou à l'occasion des ordinations des séminaristes. J'ai dit, je vais faire des consécrations épiscopales. Puisque Rome ne veut pas m'écouter, ne veut pas entendre, nous abandonne, eh bien, je me vois obligé de me donner des successeurs. En ce cas, le 25 octobre prochain, je consacrerai des évêques pour ma succession. Grand émoi à Rome. C'est à partir de cette date-là que Rome s'est émue profondément et que j'ai reçu une lettre le 28 juillet, après avoir rencontré le cardinal Ratzinger le 14 juillet. Le 29 juin se faisait cette déclaration. Le 14 juillet, je voyais le cardinal Ratzinger pour lui dire « Ou Rome m'accorde de faire des évêques, ou je les fais moi-même. » Le cardinal Ratzinger me répondait dans une lettre du 28 juillet « Pour ce qui est des évêques, il faut attendre que votre fraternité soit reconnue. Pour le reste, nous pouvons peut-être vous faire des concessions sur la liturgie, sur l'existence de vos séminaires. Et ensuite, nous pouvons vous promettre à la rigueur une visite. J'avais demandé évidemment une visite pour qu'on nous connaisse, puisqu'on ne nous connaissait pas, on ne venait pas nous voir. Alors, il y a donc eu une ouverture de la part de Rome à ce moment-là. J'avoue, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je dois me soumettre à cette ouverture ou que je dois la refuser? J'avais bien envie de la refuser, parce que je n'ai aucune confiance dans ces autorités romaines, je dois bien vous le dire, aucune. Étant donné justement qu'elles sont d'idées complètement opposées aux nôtres. Nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, je n'avais aucune confiance. Nous avions toujours été persécutés. C'était encore l'époque de Port Marly, de la persécution de l'abbé Le Carreux, n'est-ce pas, pour ses paroisses, approuvées par Rome d'ailleurs, les évêques étant approuvés par Rome, tout cela ne nous donnait pas du tout confiance de nous mettre dans les mains de Rome, d'une Rome qui combattait la tradition auprès de nous. Mais cependant, bien, nous avons voulu faire un effort. Je dis, bien, essayons de sonder, nous allons sonder quelles vont être les dispositions de Rome à notre égard. C'est dans cet esprit-là que nous sommes allés, que je suis allé à Rome, et que nous avons donc reçu la visite du cardinal Gagnon. Il semble que cette visite ait été favorable. J'avoue que je n'en sais rien, puisque je n'ai pas eu un seul mot du résultat de la visite depuis 7 mois que cette visite a eu lieu. Je l'ai dit au cardinal Ratzinger, c'est inadmissible. On fait une visite pour savoir si nous faisons bien, si nous faisons mal, s'il y a des reproches à nous faire, s'il y a des compliments à nous faire, et on ne nous dit rien. De même que je n'ai rien su de la visite de 1974 des deux prélats belges qui sont venus ici faire leur visite, voilà maintenant 14 ans, je n'avais jamais reçu un seul mot me disant quels étaient les résultats de cette visite. Alors cette visite a eu lieu, et puis ensuite on nous a proposé alors des colloques. Colloques pour mettre en place un protocole qui aurait préparé un accord et donc mettre en place les institutions qui auraient régi la tradition. Nous avons donc eu ces colloques. J'avoue que j'aurais bien voulu être moi-même présent au premier des colloques, mais ils ont préféré que je n'y sois pas et que je désigne moi-même un théologien et un canoniste pour le mois d'avril. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai désigné M. l'abbé Tissier de Malraix et M. l'abbé Laroche pour se rendre à Rome pour avoir un colloque avec des représentants du cardinal Ratzinger. Ils étaient trois. Donc un théologien, un canoniste et le père Duroux qui était le président de cette réunion, qui présidait cette réunion. Un premier papier a été fait après 48 heures, réglant les questions, disons, doctrinales et les questions disciplinaires. Nous avons été surpris de voir qu'il voulait nous faire signer quelque chose de doctrinal, étant donné que dans l'ouverture qu'avait eue le cardinal Ratzinger par sa lettre du 28 juillet de l'année dernière, il n'était pas question, il n'est plus question des problèmes doctrinaux. On a été un peu surpris qu'on nous remette ça sous les yeux, ce qui avait été l'objet d'une incompréhension pendant 15 ans. Enfin, nous sommes opposés pour des questions doctrinales, précisément. Mais comme ils ont donné dans un article, n'est-ce pas, que nous pouvions reconnaître qu'il y avait des points dans le concile, dans la liturgie et dans le droit canon qui n'étaient pas parfaitement conciliables avec la tradition, alors ça nous a satisfait. En quelque sorte, on nous donnait satisfaction sur ces points-là. Ça nous permettait de discuter des points dans le concile, dans la liturgie et dans le droit canon. C'est ce qui nous a permis de signer ce protocole doctrinal, sans quoi nous ne l'aurions pas signé. Puis ensuite, les questions disciplinaires, il y avait surtout la question de l'évêque, la question d'un bureau à Rome, le bureau dans lequel Rome aurait 7 membres et nous en aurions 2, ce qui ne nous plaisait pas beaucoup. Nous avons discuté, mais enfin, parce que nous trouvions que vraiment nous étions mis vraiment en minorité dans ce bureau de Rome. Et puis ensuite que nous étions d'une certaine manière exempts de la juridiction des évêques, dans une certaine mesure. Donc, deuxième réunion, cette fois c'est le cardinal Ratzinger avec moi-même et avec les différents théologiens, canonistes qui avaient déjà discuté entre eux. Et puis nous sommes arrivés à une conclusion, donc je dirais sur le papier acceptable. Le cardinal Ratzinger a signé le 4 mai, moi j'ai signé le 5 mai à Albano, et le protocole était donc signé. On disait, bon, les journaux ont annoncé, enfin la presse a annoncé, accord entre Mgr Lefebvre et le Vatican, il semble que les choses s'arrangent, que tout va s'arranger, etc. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'allais avec la méfiance. J'ai toujours un sentiment de méfiance. Et je dois avouer que j'ai toujours la pensée que tout ce qu'ils font, c'est pour arriver à nous réduire, à accepter le concile et à accepter les réformes post-conciliaires. Ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait des groupes après le concile qui n'admettent pas le concile et les réformes qui ont été faites après le concile. Ils ne peuvent pas admettre ça. Donc l'idée du cardinal, plusieurs fois il a dit, répété, Monseigneur, il n'y a qu'une église, il n'y a qu'une église, il ne peut pas y avoir une église parallèle, il ne peut pas y avoir d'église parallèle. Je lui ai dit, éminence, ce n'est pas nous qui faisons l'église parallèle, puisque nous continuons l'église de toujours, c'est vous qui faites l'église parallèle en ayant inventé l'église du concile. Et celle que le cardinal Benelli a appelée l'église conciliaire, c'est vous qui avez inventé une église nouvelle, pas nous. C'est vous qui avez fait de nouveaux catéchismes, de nouveaux sacrements, une nouvelle messe, une nouvelle liturgie. Ce n'est pas nous. Nous continuons ce qui a été fait auparavant. Ce n'est pas nous qui faisons une nouvelle église. Et nous avons donc senti tout au cours de ce colloque un désir, une volonté de nous ramener, n'est-ce pas, au Concile. Bien, malgré tout, j'ai signé, j'ai essayé de montrer de la bonne volonté. Mais dès le jour même où nous avons décidé de signer, à propos de l'évêque, j'ai demandé au cardinal Ratzinger, alors bon, maintenant, nous avons signé le protocole, ou du moins, vous allez le signer, moi je vais le signer demain, est-ce que vous pourriez déjà nous donner la date pour la consécration de l'évêque? Par exemple, c'était le 5 mai, donc, ou même le 4 mai, vous avez le temps, d'ici le 30 juin, de me donner le mandat pour l'évêque. J'ai moi-même participé à la présentation des évêques quand j'étais délégué apostolique pour 37 évêques. Je sais comment ça se fait. Alors, j'avais présenté les noms déjà, les noms étaient déjà sur les bureaux du Vatican. Trois noms, ce qu'on appelle la terna, c'est un terme classique à Rome pour dire les trois noms des évêques qui sont proposés et le Saint-Siège choisi parmi ces trois noms. J'ai donc donné trois noms. Je lui ai dit, d'ici le 30 juin, vous avez le temps de préparer, de faire une enquête et de me donner le mandat. Ah non, 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 c'est impossible. Le 30 juin, impossible. Bon, alors, quand? Le 15 août, à la fin de l'année mariale. Ah non, 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 Monseigneur, vous savez bien, le 15 août, à Rome, il n'y avait personne. C'est les vacances. Du 15 juillet au 15 septembre, il n'y a personne à Rome. Ce sont les vacances, on ne peut pas compter sur le 15 août. Ce n'est pas possible. Alors, le 1er novembre, la Toussaint. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais pour Noël, ah, je ne peux pas vous dire. Je dis, c'est fini, j'ai compris. On veut nous mener en bateau, c'est terminé, c'est fini. Je n'ai plus confiance, j'avais bien raison de ne pas avoir confiance, on est en train de nous jouer. J'ai perdu confiance complètement, et le 5 mai, j'ai écrit une lettre au pape et une lettre au cardinal Ratzinger en disant « J'avais espéré arriver à un résultat, je crois que c'est terminé. » Que nous voyons très bien, il y a une volonté de la part du Saint-Siège de vouloir nous soumettre à ses volontés et à ses orientations. C'est inutile de continuer, nous sommes tout à fait opposés l'un à l'autre, c'est inutile de continuer. Grand émoi, évidemment, à Rome, à ce moment-là, au sujet de cette lettre que j'ai écrite. Alors comment vous dénoncez le protocole, c'est pas permis, c'est lamentable, etc. Oui, mais je puis vous lire rapidement quelques extraits de cette lettre que j'ai écrite. C'était le 6 mai. Voici la lettre au cardinal Ratzinger. Hier, j'étais avec une réelle satisfaction que j'ai apposé ma signature au protocole élaboré les jours précédents, mais vous avez pu vous-même constater ma profonde déception à la lecture de la lettre que vous m'avez remise, m'apportant la réponse du Saint-Père au sujet de la consécration épiscopale. Il m'est pratiquement demandé de reporter la consécration à une date ultérieure non fixée. Ce serait la quatrième fois que je remets la date de la consécration à plus tard. La date du 30 juin était bien indiquée dans mes lettres précédentes comme étant la date limite. Je vous ai remis un premier dossier concernant les candidats. Il reste près de 2 mois pour établir le mandat. Étant donné les circonstances particulières de ces propositions, le Saint-Père peut facilement alléger la procédure pour que le mandat ne soit communiqué à la mi-juin. Si la réponse était négative, je me verrais en conscience obligé de procéder à la consécration, m'appuyant sur l'agrément donné par le Saint-Siège dans le protocole pour la consécration d'un évêque membre de la fraternité. Les réticences exprimées au sujet de la consécration épiscopale d'un membre de la fraternité, soit par écrit, soit de vive voix, me font légitimement craindre les délais. Tout désormais a été préparé, etc. Tous souhaitent que cette consécration se réalise avec l'accord du Saint-Siège, mais déçus par les délais antérieurs, ils ne comprendraient pas que j'accepte un nouveau délai. Les fidèles sont conscients et soucieux avant tout d'avoir de vrais évêques catholiques leur transmettant la vraie foi et leur communiquant d'une manière certaine les grâces du salut auxquelles ils aspirent pour eux et pour leurs enfants. Donc c'était clair. Alors le lendemain, bien sûr, le 6 mai aussi, le cardinal me répond « Excellent, j'ai pris attentivement connaissance de la lettre que vous venez de m'adresser dans laquelle vous me faites part de vos intentions concernant la consécration épiscopale d'un membre de la fraternité Saint-Pédis le 30 juin prochain. » Étant donné que ces intentions sont en contraste très net avec ce qui a été accepté par vous lors de notre colloque le 4 mai, consigné dans le protocole auquel vous avez apposé votre signature, je désire vous affirmer sans retard que la publication du communiqué de presse prévu doit pour l'instant être différée. Je souhaite très vivement que vous reconsidériez votre position conformément aux résultats du colloque, etc. Puis ensuite, il me demande d'envoyer en même temps un projet de lettre à faire au pape dans lequel il fallait que je demande pardon, non pas pour ça, mais pour tout ce qui avait été fait au cours des 13 années passées, pour les torts que j'avais pu avoir. Je suggère cependant que, même en toute bonne foi, ce sont eux qui écrivent ça pour que je le signe, c'est pas moi. J'ai voulu rechercher en toute conscience. Je sais cependant qu'en toute bonne foi, on peut commettre des erreurs aussi. Je vous prie humblement de pardonner tout ce qui, dans mon comportement ou celui de la fraternité, a pu blesser le vicaire du Christ et l'Église. Toutes ces choses-là qu'on nous avait abandonnées, on les remet de nouveau sous nos yeux pour nous réaffirmer. Ces tracasseries, je dirais, qu'on vient nous remettre, eh bien, manifeste qu'il n'y a pas de bonne volonté de la part du Saint-Siège vis-à-vis. Et que le seul désir du Saint-Siège, c'est de nous ramener, n'est-ce pas, au Concile et aux réformes. Alors, c'est pourquoi vous avez, je crois, vous a remis la lettre que j'ai écrite au pape, n'est-ce pas, en définitive, le 2 juin, n'est-ce pas. Bon, le très Saint-Père, les colloques et entretiens avec le cardinal Ratzinger et ses collaborateurs, bien qu'ils aient eu lieu dans une atmosphère de courtoisie et de charité, nous ont convaincus que le moment de collaboration franche et efficace n'était pas encore arrivé. Alors, étant donné le refus de considérer nos requêtes, et étant évident que le but de cette réconciliation n'est pas du tout le même pour le Saint-Siège que pour nous, nous ne croyons pas préférable d'attendre des temps plus propices au retour de Rome à la tradition. C'est pourquoi nous donnerons nous-mêmes les moyens de poursuivre l'œuvre que la Providence nous a confiée. Évidemment, affolement aussi à Rome, et alors j'ai reçu après une lettre du Saint-Père, signée de lui-même, me suppliant de garder l'unité, c'est un couplet au sujet de l'unité de l'Église, ne pas diviser l'Église, pas demeurer dans la fidélité à l'Église. Mais précisément, nous ne sommes pas dans la même vérité. Pour eux, la vérité est évolutive. La vérité change avec le temps. Et la tradition, c'est Vatican II. C'est Vatican II aujourd'hui, la tradition. Pour nous, la tradition, c'est ce que l'Église a enseigné depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Pour eux, non. La tradition, c'est Vatican II, qui résume en lui-même tout ce qui a été dit précédemment, et que les circonstances historiques sont telles que maintenant, eh bien, il faut croire ce que Vatican II a fait. Ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus, c'est du temps passé. C'est pourquoi le cardinal n'hésite pas à dire, le Concile Vatican II est un anti-syllabus. Anti-syllabus. On demande bien comment un cardinal de la Sainte Église peut dire que le Concile de Vatican II est un anti-syllabus, qui est un acte très officiel du pape Pie IX dans l'encyclique Cantata Curae. C'est inimaginable. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, éminence, il faut que nous choisissions ou bien la liberté religieuse telle qu'elle est dans le Concile, ou bien le syllabus de Pie IX. N'est-ce pas ? Il faut choisir. Un contradictoire. Alors, il m'a dit, mais monseigneur, nous ne sommes plus au temps du syllabus. Ah, j'ai dit, alors la vérité change avec le temps. Comme ça. Alors, ce que vous me dites aujourd'hui, ben, demain, ça ne sera plus vrai. Il n'y a plus moyen de s'entendre. On est dans une évolution continuelle, c'est impossible de parler. Et ça, ils ont ça dans l'esprit. Il m'a répété toujours, il n'y a qu'une église, c'est l'église Vatican II, n'est-ce pas ? C'est l'église Vatican II. L'église Vatican II représente la tradition. Ben non, l'Église Vatican II, malheureusement, s'oppose à la tradition. C'est pas la même chose. Alors le pape me supplie, évidemment, de ne pas briser l'unité de l'Église, de ne rien faire, et me menace, évidemment, des peines canoniques si je fais ces consécrations le 30 juin prochain. Alors je vous avoue que l'ambiance dans laquelle se sont déroulés les protocoles, puis les faits qui ont atteint ceux qui se sont ralliés à Rome. Par exemple, je prends l'exemple de Don Augustin qui est à Flavigny, qui a un couvent dans lequel moi-même j'ai ordonné 24 prêtres dans ce couvent à Flavigny, bénédictin, me quitte et me dit: Monseigneur, moi je ne peux plus rester avec vous, je me rallie à Rome et je rentre dans l'obéissance avec Rome, je ne peux pas rester avec vous. Bien, livre à lui. Avec l'espoir, il s'est rallié à Rome, avec l'espoir qu'on lui garderait la tradition qu'il avait dans son couvent, c'est-à-dire la messe traditionnelle pour ses moines et pour sa messe de conventuelle. Eh bien, Rome a exigé que pour la messe conventuelle, ce soit la messe nouvelle, et non pas la messe du concile, et non pas la messe ancienne. Donc, au lieu d'accorder, même si on se rallie à Rome, au lieu de nous dire « vous pouvez garder la tradition », on change la tradition. Fongombo, prenons le deuxième exemple, encore un monastère, Fongombo. Ils ont accepté, par obéissance, de garder pendant 15 ans la messe nouvelle, parce que les évêques avaient dit qu'il fallait prendre la messe nouvelle. Ils l'ont faite. Vient l'indulte de Rome. Tous ceux qui ont accepté la messe nouvelle, désormais, pourront dire la messe ancienne. Bon, ça s'appliquait parfaitement à Fongombo. Refus de la part de l'archevêque de Bourges. Non, vous ne pourrez pas dire la messe ancienne pour la messe conventuelle. Vous devez garder la messe nouvelle. Mais comment ? L'indulte est là, de Rome. Ah bien, c'est comme ça. Il va voir la congrégation du culte à Rome, Monseigneur Maillère, à la congrégation du culte, qui lui dit, vous savez, c'est difficile, à essayer donc de voir le pape. Il réussit à voir le pape. Le pape le renvoie au cardinal Maillère en disant, bien, faites un effort, peut-être on pourra arranger ça, etc. Le cardinal Maillère finit par le renvoyer à l'évêque de Bourges, et ils sont toujours avec la messe nouvelle pour la messe conventuelle. Et pourtant, ils remplissaient parfaitement les conditions de l'indulte. C'est pour dire, nous ne pouvons pas avoir confiance. Ce n'est pas possible. Et je vais vous citer un dernier exemple. Un exemple extraordinaire. Vous avez entendu parler, sans doute, et vous avez probablement fait quelques articles dans les journaux, il y a 2 ans, sur les transfuges d'école, les fameux transfuges d'école. Ils étaient partis d'ici, d'école, n'est-ce pas ? 9 séminaristes. Le petit, je dirais, celui qui a été, le chef, en quelque sorte, de cette petite rébellion, n'est-ce pas, l'abbé Carlo, est resté dans le séminaire pendant un certain temps, caché bien son jeu, et est arrivé à déterminer 8 autres séminaristes à quitter Écône. Il s'est mis en relation avec l'abbé Grégoire Billot, qui est ici en Suisse, à Baden, n'est-ce pas ? Et cet abbé Billot est en relation avec le cardinal Ratzinger, il parle l'allemand, donc il a téléphoné au cardinal Ratzinger, voilà, il y a Écône, 9 séminaristes qui sont prêts à partir, qu'est-ce que vous leur promettez ? Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Oh, c'est formidable, une occasion unique, et peut-être si on les prend, si on leur promet monts et merveilles, eh bien, il y en aura d'autres qui vont venir. Et il l'a dit explicitement, le cardinal Ratzinger. Là, je suis très heureux qu'il y en ait qui ait quitté Écône, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres qui suivront les premiers qui ont quitté Écône. Alors, vous savez très bien, on a fait le fameux séminaire Mater Ecclesiae, dirigé par un cardinal, le cardinal Innocenti, avec un autre cardinal, le cardinal Garonne, avec un troisième cardinal, le cardinal Ratzinger, approuvé par le pape officiellement dans l'Osservatore Romano, une affaire mondiale. Et tous les journaux du monde ont parlé de ce séminaire traditionnel fait avec les transfuges d'école et qui d'ailleurs rassemblerait aussi bien des séminaristes qui avaient la même sensibilité, comme on dit maintenant, n'est-ce pas ? Qui avaient la même sensibilité. Ils sont partis là-bas, peut-être une 20aine de séminaristes. Je vous assure que ça vaut la peine de lire cette lettre que vient de nous envoyer ces jours-ci l'abbé Carlo, qui était lui l'instigateur du départ de ces séminaristes. Il met « Je regrette ». En gros titre sur sa lettre, « Je regrette ». Nous avons tout perdu. On n'a tenu aucune promesse. Nous sommes des misérables. Nous n'avons plus rien. Nous ne savons plus même où aller. On nous dit, allez maintenant dans vos diocèses, retournez dans vos séminaires, allez où vous voudrez, etc. On nous a enlevé la liturgie, on nous a tout enlevé, tout, tout. Je regrette, et ça l'est. La réponse à nos requêtes, à ces requêtes plusieurs fois réitérées, a été le silence, et surtout l'alignement progressif et aujourd'hui complet de la maison de chacun des séminaristes. Toute entreprise est à ce jour la risée des progressistes, évêques français en tête, et des plus traditionnels. Jour après jour, nous avons vu la situation se dégrader, les séminaristes se déshabiller, on leur a demandé d'enlever la soutane, se faire accepter des évêques en renonçant à tout, étant prêts à tout. Ensuite, ce fut le temps des sanctions. Tous ceux qui étaient chargés de nous aider, sommés par les autorités, ne plus s'occuper de nous. Désormais, pour celui qui ne voudrait pas avoir affaire avec les évêques de France ou d'ailleurs, il n'y a absolument plus de solution. Et le pape n'a rien fait. Et sans doute l'an prochain, la maison mater ecclésiaise sera fermée, ce qui d'ailleurs sera peut-être aussi bien. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà. Pour des gens qui ont voulu se rallier à Rome. Oui, ça va être notre cas. Nous en sommes de plus en plus persuadés. Plus nous réfléchissons à toute l'ambiance de ces colloques, plus nous nous rendons compte qu'on est en train de nous faire un piège. Un piège, on nous piège. Et que demain, on nous dira, et désormais, c'est fini, la messe traditionnelle, il faut accepter la messe nouvelle aussi, il ne faut pas être contre la messe nouvelle. D'ailleurs, ça, ils nous l'ont dit. Voici un exemple qu'a donné le cardinal Ratzinger, par exemple, pour que Saint-Nicolas du Ferdonné. Monseigneur, quand le protocole sera signé et que les affaires seront réglées, il est évident que Saint-Nicolas du Ferdonné ne pourra pas rester comme c'est maintenant. Pourquoi ? Ah, ben Saint-Nicolas du Ferdonné est d'une paroisse de Paris. Et Saint-Nicolas du Ferdonné dépend du cardinal Lustiger. Elle appartient, c'est une paroisse qui appartient au cardinal Lustiger. Par conséquent, il sera absolument nécessaire que dans la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay, il y ait une messe nouvelle régulièrement tous les dimanches. On ne va pas accepter que les paroissiens qui désirent la messe nouvelle ne puissent pas aller dans leur paroisse pour avoir cette messe nouvelle. Vous voyez ça? Ça, c'est le commencement de l'introduction, messe nouvelle, et de nous aligner. Et c'est pas possible, c'est pas possible. Nous nous sentons tristes. Dans un engrenage dont nous ne pouvons plus sortir. Alors, des difficultés inextricables avec les évêques, avec les mouvements des diocèses qui vont vouloir que nous collaborions à eux si nous sommes reconnus par Rome. Nous avons toutes les difficultés possibles et imaginables. Alors, c'est pourquoi je pense que il m'a semblé qu'en conscience, je ne pouvais pas continuer. Et j'ai décidé, donc, d'où ma lettre du 2 juin, et la consécration des quatre évêques qui aura lieu le 3 juin. Vous avez les indications au sujet de ces futurs évêques. L'Observatore Romano publiera probablement l'excommunication, déclaration de schisme, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Bon, excommunication par qui? Par une Rome moderniste. Par une Rome qui n'a plus parfaitement la foi catholique, qui ne pense plus catholique, qui n'agit plus catholique. On ne peut pas dire que quand il y a une manifestation comme à Assise, on est encore catholique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que quand il y a Kyoto, et puis les déclarations qui ont été faites aux Juifs à la synagogue, et la cérémonie qui a eu lieu à Sainte-Marie du Temps-Sévère l'année dernière, n'est-ce pas, en plein Rome, c'est scandaleux, absolument scandaleux, ce n'est plus catholique. Alors, nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. Alors, ça nous est indifférent, ça n'a pas de valeur, évidemment. Déclaration de schisme. Schisme avec quoi? Schisme avec le pape successeur de Pierre? Non. Schisme avec le pape moderniste? Oui. Schisme avec les idées que le pape répand partout, les idées de la révolution, les idées modernes, n'est-ce pas? Oui, ça, nous sommes alors en schisme avec cela, ça, nous n'acceptons pas, bien sûr. Mais nous n'avons personnellement aucune intention de rupture avec Rome. Nous voulons être unis à la Rome de toujours. Et nous sommes persuadés d'être unis à la Rome de toujours, parce que nous continuons dans nos séminaires, dans nos prédications, dans toute notre vie et de toute la vie des chrétiens qui nous suivent. C'est la vie traditionnelle comme elle était avant le Concile Vatican II, qu'elle a été vécue pendant 20 siècles. Alors, je ne vois pas pourquoi nous serions en rupture avec Rome parce que nous faisons ce que Rome elle-même a conseillé de faire pendant 20 siècles. Ce n'est pas possible, ça. Voilà la situation actuelle. Ça, il faut bien la comprendre. Pour ne pas pinailler, je dirais, sur... mais vous aviez un évêque, donc c'est bien, vous pouviez avoir un peu plus de membres dans le conseil romain, tout ça. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est le problème de fond. Le problème de fond qui est là toujours derrière nous, n'est-ce pas ? Et qui nous fait peur. Nous ne voulons pas être des collaborateurs de la destruction de l'Église. C'est ce que j'ai dit dans mon livre « Les catholiques perplexes ». J'ai terminé par là. Je ne veux pas, quand le bon Dieu me rappelle, eh bien, ils me disent « Qu'est-ce que tu as fait là-bas, sur la terre ?» Bien, tu as contribué à démolir l'Église aussi. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas contribué à démolir l'Église, je contribue à la construire. Ceux qui la démolissent, ce sont ceux qui diffusent des idées qui détruisent l'Église et qui ont été condamnés par leurs prédécesseurs. Voilà, messieurs, le fond de ces événements, et ce qui sous-tend les événements que nous allons vivre ces jours-ci. Bien sûr que ça va faire parler et qu'il y aura un monde fou à la cérémonie du 30 juin pour la consécration de ces quatre jeunes archevêques qui seront au service de la fraternité. C'était prévu comme ça par Rome, d'ailleurs, c'est l'évêque qui devait être sacré pour la fraternité, tout au service de la fraternité. Eh bien, ces quatre évêques seront au service de la fraternité. Voilà. Et celui qui aura, en principe, donc, le colloque avec Rome, désormais, lorsque je disparais, moi, eh bien, ce sera le supérieur général de la fraternité. C'est l'abbé Schmidberger ici, actuellement supérieur général, encore 6 ans de supérieur général à accomplir. C'est lui qui éventuellement aurait les contacts avec Rome, désormais, pour continuer les colloques, si ces colloques continuent ou si ce contact continue. Ce qui est peu probable pendant quelques temps, puisque dans l'Observatore Romano va être mis en grand titre « Schisme de Mgr Lefebvre, excommunication, ceci, cela ». Donc pendant X années peut-être, 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien, ça va être la séparation. Voilà, si vous avez des questions à poser...
Est-ce que vous ne doutez jamais, Monseigneur ? Vous êtes finalement assez isolé à défendre ce point de vue.
Je devrais douter, voyez-vous, vous avez raison, je devrais douter si c'était des idées personnelles, si c'était une opinion personnelle, si je défendais une foi que j'inventais. Alors là, je devrais douter, normalement. Mais étant donné que je ne fais que continuer ce qu'on m'a appris, et ce qu'on m'a appris au séminaire, ce qu'on m'a appris dans toute ma vie, et ce pourquoi on m'a fait évêque, ce pourquoi on m'a fait délégué apostolique, ce pourquoi j'ai été supérieur général, je ne fais que continuer ça, je n'ai pas changé un iota. Et tout d'un coup, on me dit, « Oh, vous êtes dissident, vous êtes rebelle. » Mais comment est-ce possible ? On m'a fait évêque pour ça, on m'a fait délégué apostolique, mais tout à coup, je me trouve dissident, rebelle. C'est pas possible.
Mais le monde, lui, a changé, Monseigneur.
Oui, mais le monde a changé dans quel sens ? Je pense qu'il est en train de se détruire lui-même, le monde.
Monseigneur, posso chiederle in italiano, per favore, di ripetermi il significato che lei attribuisce alla scomunica che cadrà automaticamente con la consacrazione dei vescovi il 30 maggio prossimo.
Come dice?
Può ripetermi il significato che lei attribuisce alla scomunica che cadrà sulle sue spalle il 30 maggio prossimo?
Io dico che la scomunica non vale niente, perché sono scomunicato per le autorità che sono moderniste. Queste autorità sono moderniste, non hanno più veramente la fede cattolica. E loro sono scomunicati perché dalle loro predecessori. I predecessori hanno condannato il liberalismo, il modernismo, il Santo Pio X, ha fatto Pascendi Dominici Gregis, sua enciclica, il suo sermento antimodernistico, e tutto ha fatto contro queste idee che loro diffusano adesso.
E il significato dello scisma? E sul significato dello scisma?
In scisma, non come il Papa stesso, come il successore di San Pietro, ma come Papa modernista. Sì, modernista non sono d'accordo con il Papa schismatico, ma non io con il Papa che modernista, ma non col Papa successore di Pietro.
Monseigneur,
Est-ce que vous pourriez donner une traduction française de ce que vous venez de dire, monseigneur ?
C'est la même chose.
C'est ça, en substance, c'est la même chose. Monsieur.
Deux questions. Vous vous référez à l'église des apôtres, toujours, qui est une église conciliaire. Par ailleurs, vous semblez vous en prendre à la démarche conciliaire de l'église. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Première question. Deuxième question. Vous vous référez à la tradition des papes. Il y a un pape que vous ne citez pas, c'est Pie XI. Pie XI, à qui vous avez déjà eu affaire en son temps comme protestataire. Est-ce qu'il n'y a pas là un oubli dans l'évocation historique de l'Église ?
Premièrement, vous dites...
La référence conciliaire, l'Église des apôtres est une Église conciliaire. Vous avez vous-même participé à la préparation du concile, et puis vous semblez en parler comme si vous étiez à l'extérieur de ce concile.
Oui, parce qu'ils nous ont fait faire dans ce concile des choses auxquelles nous ne nous attendions pas du tout. Et c'est pourquoi je n'ai pas signé la liberté religieuse et le schéma de l'Église dans le monde. Deux schémas que je n'ai pas voulu signer parce que j'estimais que c'était contraire à la tradition de l'Église. Oui, et oui, qu'est-ce que vous voulez.
Et alors Pie XI.
C'est au contraire tout à fait. J'ai jamais été contre Pie XI. On a diffusé au contraire sa fameuse encyclique Quas Primas sur le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Admirable. Pie XI a fait des encycliques sur le communisme, sur des encycliques magnifiques. Pas du tout contre Pie XI. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
Et la condamnation de l'Action française.
Ah ben ça, je suis pour rien. Alors, et moi, je ne suis pas d'Action française. Alors, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai jamais été d'Action française.
S'il vous plaît, monsieur.
Monseigneur, vous souhaitez, à long terme ou à court terme, une conversion de la Rome moderniste, comme vous appelez.
Parfaitement.
Si cette conversion ne se produit pas, vous allez, par le schisme, comme on l'appellera à Rome, créer une nouvelle église. Est-ce que toute nouvelle église, vous allez la constituer peu à peu avec davantage d'évêques, un consistoire, des cardinaux, un nouveau pape ?
Là, je réfute, je dirais, ce que vous dites, nouvelle église. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire une nouvelle église. Précisément, nous voulons faire l'église qui se continue, quoi. Alors, s'il faut plusieurs évêques encore, parce que Rome reste toujours dans ses idées, mais nous espérons bien, et malheureusement, que Rome va être affrontée à des problèmes tels à l'intérieur de l'église. Ils n'auront plus de prêtres, ils n'auront que des charismatiques, ils n'auront plus que des gens qui n'auront plus la foi catholique. Ce sera la ruine totale de l'Église. Alors on espère quand même qu'un beau jour, ils vont dire, il faut quand même revenir un peu de tradition. Qu'à ce moment-là, il y aura un accord avec nous.
Monsieur.
Monseigneur, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre les propos que vous avez tenus tout à l'heure et la lettre que vous avez envoyée au pape ? Vous avez dit qu'aucune date ne vous avait été donnée pour la consécration des évêques. Ouais. Or, dans cette lettre, vous précisez que c'est le 15 août que Monseigneur Ratzinger a fixé la date de cette consécration.
Il n'y a pas lui pour cela que je fasse une lettre combinatoire, n'est-ce pas ? Entre ces deux lettres, il a fallu que je dise, si vous ne me donnez pas la date, je consacre les évêques, etc., le 30 juin.
Donc, ils ont fixé.
Alors, ils ont rapproché au 15 août, n'est-ce pas, la date. Oui, ils ont fixé le 15 août. Mais, je dis, il y avait quand même eu, pendant ce temps-là, il a fallu malheureusement que je me mette, nous coupons et je fais les consécrations si vous ne me donnez pas de date. C'est même malheureux, enfin, qu'il n'ait pas voulu me donner de date.
Donc Rome était d'accord en principe sur la consécration d'un évêque.
D'un évêque le 15 août, oui.
Un évêque, oui.
Un des quatre.
Mais, il me demandait dans la dernière lettre, « Monseigneur, nous avons besoin encore de plusieurs dossiers d'évêques, parce que vous n'en avez donné que trois, il en faudrait davantage pour trouver l'évêque qui est le profil que Rome désire voir dans cet évêque. » Alors, le profil que Rome désire, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il aurait fallu que j'envoie encore je ne sais pas combien de dossiers. Or, pour l'étude de ces dossiers, il faut du temps aussi. Et je suis absolument intimement persuadé qu'avant le 15 août, ils auraient dit, mais ce n'est pas possible, on n'a pas eu le temps d'étudier ces dossiers. D'ailleurs, les vacances, il faut attendre après les vacances, puis ils nous auraient porté plus loin.
Donc, il n'y avait pas d'accord sur le nom d'un évêque.
Non.
Monsieur Bonnard, s'il vous plaît. Monsieur Bonnard.
Monseigneur, est-ce que vous craignez que le schisme et l'excommunication vous priveront d'une grande partie de vos fidèles ?
Est-ce que vous pensez que le schisme et l'excommunication vous priveront d'une grande partie de vos fidèles ?
Peut-être, d'un certain nombre. C'est une grande partie, je ne crois pas, mais d'un certain nombre. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable, oui. Mais je pense qu'ils ne tardent pas à rentrer, parce que où iront-ils, n'est-ce pas ? Pour retourner dans ces églises modernes qu'ils détestent, ils ne vont pas rester longtemps.
pourra s'occuper de ces gens-là.
Pourra s'occuper de...
De ces gens qui vont vous quitter.
C'est ce qu'ils essaient de faire. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils ont déjà fait des propositions aux Dominicains. Ils ont dit, si Monseigneur coupe, nous, nous vous proposons de nouveau alors le protocole et les avantages, etc. L'évêque de l'archevêque d'Angers, hier, je suis un coup de téléphonie des Dominicains, me disant que l'évêque d'Angers est allé les voir, enfin, envoyer des messagers pour leur dire, si Monseigneur ne s'arrange pas avec Rome, nous, nous allons vous arranger avec vous. Ils essayent déjà de nous diviser, vous voyez.
Mais ne pensez pas
qu'ils sont de votre. Ils vont les ramener comme Don Augustin et puis les autres. C'est pas possible. Ils vont pas tout de même accorder à ceux qui ont été, je dirais, les plus opposés, des avantages qu'ils n'ont pas accordés à ceux qui ont été obéissants pour eux.
L'Italien, monsieur.
Che cosa pensa del fatto che probabilmente la scomunica riguarderà anche i membri della fraternità e anche i nuovi vescovi?
No. No, mi sembra, ma io non lo so, vedremo quando sarà pubblicato nell'Osservatore Romano, ma io credo che sarà soltanto il vescovo consecratore e i vescovi che sono consecrati, che sono scomunicati.
Non i partecipanti alla cerimonia.
No.
La Santa Sede quindi si trova in stato di sede vacante, sede vuota, non c'è il vero Papa? Quindi
non
diventerà il nuovo Papa
della Chiesa? No, non ho mai detto questo. Io non sono sede vacantiste. Non sono sede vacantiste. Io non ho mai detto che non c'è Papa sulla sede di San Pietro, no. Ma dico che questo Papa è modernista. E che noi possiamo seguirlo perché è modernista.
Qual era prevista la funzione di quella commissione romana? Qual è la funzione esatta di questa
commissione? Era di procedere alla riconciliazione, di mettere a posto tutti i regolamenti canonici per i religiosi, per i domenicani, francescani, per noi, mette tutto a posto secondo il diritto canonico.
Di tutte le cose nuove che la Chiesa va creando, anche per esempio un documento di una congregazione romana doveva essere sottomesso a questa congregazione.
Sì.
Tutte le cose nuove dovevano essere superviste per queste.
Sì.
Quindi sarebbe come una Chiesa, il capo della Chiesa, come una organizzazione per.
Beh, il Papa che deve prendere le decisioni, ma è il re di Cardinal Ratzinger che era presidente. Cardinal Ratzinger è presidente di questa commissione.
S'il vous plaît, monsieur, ensuite Le Figaro et ensuite Time Magazine, s'il vous plaît.
Oui. Je reviens à ce passage de votre lettre au pape. Vous avez expliqué avant qu'en fait, un évêque aurait été admis, enfin une candidature pour le 15 août, une proposition sur laquelle vous n'êtes pas entré en matière. Mais à quel moment, si je lis bien la lettre, que la consécration d'évêque épiscopal n'est pas contraire à la volonté du Saint-Siège, dites-vous, à quel moment, dans quel document cela a été dit
dans
de quelle colonne
qu'une consécration d'évêque
oui.
Est
pour... À quel moment Rome
c'est dans le colloque, c'est dans le protocole.
Consacrer les évêques.
C'est dans le protocole.
Dans
le protocole d'accord.
Du 4 mai, du
oui.
4-5 mai. Donc Rome a dit, vous pouvez consacrer des évêques. Mais
ah, l'évêque, attends.
Oui, en respectant les dates.
C'est ce que vous avez. Là, il n'y avait pas. Justement, il n'y avait pas. Justement, il n'y avait pas question de date. Justement, il n'y avait pas question de date. Alors, j'ai demandé la date. Après, mais, c'est là qu'ils m'ont emmené comme ça.
Mais, Monseigneur, si Rome vous dit.
Vous voyez ici,
demain
voilà.
Demain ou après-demain, vous aurez un évêque que vous pourrez ordonner le 15 août.
Ouais.
Est-ce que vous seriez prêt, Monseigneur, à revenir sur votre décision concernant le 30 juin?
Non, parce que à cause du contexte général de nos colloques, vous voyez, que je pense que désormais, même l'évêque, ils veulent d'ailleurs, voyez, puisqu'ils me demandent encore des noms, combien de noms je dois donner, je n'en sais rien moi-même, il me faut encore augmenter les dossiers, et qu'ils me disent, il faut que cet évêque ait le profil désiré par le Saint-Siège, quel profil, moi j'en sais rien, tout ça est inquiétant, vous voyez, on ne me fait pas confiance.
Mais si demain, on vous dit le 15 août, Monseigneur, vous êtes sûr d'avoir un évêque?
Non, non, ça c'est pas ça. C'est...
Est-ce qu'il peut y a pas de problème. D'ici 30 juin, un espoir d'éviter le schisme, d'ici 30 juin. Ça. Si on vous dit demain, si demain Rome vous dit, Monseigneur, le 15 août, vous êtes sûr d'avoir un évêque à consacrer.
Oui, évidemment.
Est-ce qu'on peut encore espérer qu'il ne se passe rien d'ici le 30 juin?
Ah, c'est-à-dire qu'il faudrait que je renonce au 30 juin et que j'écrive une lettre immédiatement au cardinal Ratzinger en disant que j'accepte la consécration au 15 août, je renonce à la consécration du 30 juin, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal dans la... au cours des années précédentes, etc. Et puis, c'est... Mais ce n'est pas certain, encore une fois, comme je le disais, puisqu'il nous demande d'autres dossiers pour les évêques, donc il n'y a pas encore d'évêque prévu, n'est-ce pas? Il y a un évêque prévu, mais pas de nom.
Ce n'est pas encore
désigné.
Est-ce que c'était un des quatre que vous aviez proposé pour le 15 août?
Non, il y a trois là-dedans. Deux là-dedans que j'avais proposé pour le 15 août. Oui, deux et puis un autre. Oui.
Monsieur Bourdarias du Figaro.
Monseigneur, votre combat, si j'ai bien compris, depuis une dizaine d'années, c'est la défense de ce que vous appelez la tradition. Or, il est évident que la décision que vous venez de prendre, si elle se concrétise le 30 juin, va durcir les positions, va permettre d'ailleurs à vos adversaires les plus résolus de pavoiser, et elle va accentuer au sein de l'Église, le divorce entre les gens qui, comme vous, sont attachés à la transition, à la tradition, à des degrés divers, et puis les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites un pari terriblement risqué?
Une erreur de stratégie.
Que vous ne pensez pas?
Que vous faites une erreur de stratégie, oui, très grave.
Vous vous marginalisez, vous n'avez plus de pouvoir à l'intérieur de l'Église.
Est-ce que vous ne vous marginalisez pas en n'ayant plus de pouvoir dans l'Église? Est-ce que vous ne vous marginalisez pas en vous mettant à l'écart?
Eh bien, non, parce que je crois que si on avait accepté, vous voyez, le protocole, et que nous aurions eu des difficultés considérables d'entente avec les évêques locaux, parce qu'ils n'ont plus du tout nos idées et nos pensées, que nous avons lutté contre ce qu'ils font depuis 15 ans, nous luttons contre ce que font les évêques. Comment nous aller travailler avec les évêques, collaborer avec ces évêques-là? Ça me semble absolument impossible, vous voyez. Absolument impossible. Alors, je suis persuadé que nous serions réduits à néant en l'espace d'un an. En l'espace d'un an, il n'y a plus de fraternité, c'est fini.
Parce que
nous serions tous divisés entre nous sur ce qu'il faut faire par rapport à telle proposition d'un évêque, par rapport à telle proposition d'un autre évêque. On ne saurait plus comment s'en tenir, nous serions perdus complètement. Donc maintenant, nous allons peut-être, évidemment, perdre un peu de troupes, nous allons peut-être nous rétrécir un tout petit peu, mais le combat sera ferme et continuera comme nous l'avons fait depuis 15 ans. Et je pense que nous continuerons à avoir des séminaristes, c'est ça qui compte, avoir de nombreux prêtres, vous voyez. Je pense que Rome est sensible aux faits, pas tellement aux paroles. Et si on nous considère... Moi, on ne me considérerait pas, comme on ne considère pas Mgr Castromaier, vous voyez, parce que Mgr Castromaier là, représente peu de choses. Mais moi, on m'a considéré, non pas à cause de ma personne, mais à cause de l'œuvre que j'ai faite, et tous ces séminaristes, et tous ces prêtres, n'est-ce pas, et tous ces prieurs.
Parce que vous étiez dans l'Église, tandis que vous allez... Monsieur Madiran, dans
l'Église.
Non, permettez-moi. Ah, oui. Monsieur Madiran, je n'ai pas lu l'article, hein, mais on m'a dit au téléphone ce matin... que M. Madiran avait écrit qu'il vous considérait désormais comme un évêque orthodoxe si vous faites ces ordinations le 30 juin. Donc, si vous voulez... Vous,
oh, même ben ça, moi, je ne sais pas ce que pense M. Madiran maintenant. Moi, ça m'est égal. Ah, mais oui, ce qui est important, c'est de savoir ce que je suis en réalité, n'est-ce pas? Or, étant donné que je continue la tradition comme je l'ai fait... Et voyez, j'étais suspens. On m'a traité de tous les noms possibles et imaginables dans tous les journaux du monde. Chaque fois que je faisais une confirmation, je faisais n'importe quoi, à peine j'arrivais dans un diocèse, l'évêque faisait un grand article, cet évêque rebelle, dissident, suspens, etc., etc. 15 ans après, vient une visite de Rome. Cette visite de Rome dit, et elle a dit explicitement, c'est sûr, ce que vous faites, qu'on reconstruira l'Église. Alors, quoi? Donc j'avais raison de résister, j'avais donc raison de faire, et Rome même, le cardinal a assisté ici à la messe de l'évêque suspens que je suis, n'est-ce pas, une grande messe pontificale, il a assisté lui-même solennellement à cette messe. Donc ça montrait bien que j'ai gagné. Au bout de 13 ans, j'ai fini par convaincre Rome que ce que je faisais n'était pas si mauvais que ça. Eh bien, moi, je pense, on va peut-être encore passer 10 ans, j'en sais rien, moi. Mais puis, ben, on finira par dire, ben, au fond, les prêtres sérieux qui restent dans le monde et qui sont des points de référence de l'Église catholique sont les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Philippe. Tous les autres, mais regardez les conclusions du pape à son retour des États-Unis, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, l'homosexualité règne dans tous les séminaires et même conseillée par les professeurs. Ah oui, absolument. Absolument, je vous assure, c'est pas d'invention. Alors, quand on en est là, il ne restera plus rien, ces séminaires, c'est zéro. Et maintenant, les séminaires en France, tout ça, même les meilleurs séminaires deviennent des séminaires charismatiques. C'est tout charismatique. Et charismatique, ça veut dire que c'est le laïc qui commande, c'est la base qui commande. S'il y en a un qui a des pulsions, comme ils disent, des pulsions spirituelles du Saint-Esprit, c'est lui qui commande. L'évêque n'est plus rien à côté de lui, ni le prêtre, c'est lui qui mène la danse, n'est-ce pas, qui mène le bal. Alors, ça, c'est pas possible.
Monseigneur, étant dire que le principe que vous pourriez nommer un évêque était admis dans ce communication de 4-5 mai. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre que dès maintenant, dès aujourd'hui, tout compromis est exclu et que vous continuerez sur votre chemin, point. Il n'y a plus de doute. C'est comme ça, oui. Point, oui. Final. Oui. Ni action de Rome, ni non. Quoi que ce soit non. Pour intervenir, non. Pour nommer à une date ultérieure, etc.
Non, c'est
point.
Fini.
Monsieur.
Je voudrais savoir s'il y a quelques évêques catholiques qui vont exprimer une certaine solidarité, si c'est possible de connaître les noms. Deuxième question, quelle est votre opinion sur la récente rencontre du cardinal Casaroli à Moscou avec M. Gorbatchev?
Ah, ça, c'est une question qui ne regarde pas beaucoup la consécration des évêques du 30 juin. Mais, bon, moi, vous savez, en tout cas, je ne sais pas, mais ce que j'ai entendu dire, et je suis sûr que je voudrais demander au patriarche des Ukrainiens ce qu'il en pense. Je voudrais demander aux évêques de Lituanie ce qu'ils en pensent. C'est à eux qu'il faut demander, parce que ce sont eux qui sont concernés là-dedans. On fait une alliance avec la hiérarchie orthodoxe soviétique qui est nommée par les soviets. C'est avec eux qu'on s'entend, n'est-ce pas, et par l'intermédiaire de ces évêques avec Gorbatchev. Et les vrais catholiques, ceux qui sont morts, martyrs, persécutés par cette hiérarchie orthodoxe, sont eux qui ont persécuté les Ukrainiens. Alors pensez bien, pour les Ukrainiens, c'est une insulte, c'est une gifle pour ces Ukrainiens. Alors ils sont furieux. D'ailleurs, il y a eu des lettres, moi, qui ont été écrites, n'est-ce pas, par les Ukrainiens, très mécontents. Bon, nous comptons pour rien, nous les martyrs de l'Église catholique, nous qui avons perdu notre nation catholique à cause de ces évêques orthodoxes. Et puis c'est avec ces évêques orthodoxes qu'on donne l'impression qu'ils sont des gens très bien, avec lesquels on n'a rien à reprocher, n'est-ce pas, tu sais, parce qu'ils vont nous permettre d'aller chez Gorbatchev. C'est abominable. Enfin, à mon avis, je pense que c'est vraiment triste pour ces pauvres Ukrainiens et pour les Lituaniens qui sont toujours emprisonnés et qui sont toujours persécutés.
Je suis demandé si vous aurez le soutien de quelques évêques.
Le soutien là-bas, il y a Mgr Castromayer qui va venir le 26 juin et qui fera les consécrations avec moi. Nous serons deux pour faire les consécrations.
Monsieur Daillère, du Nouvelliste.
Une question, Monseigneur, il reste que c'est vous qui prenez cette fois la responsabilité de la rupture, quand c'est dans une négociation que vous avez accepté d'ouvrir. Et alors, la seule question qui se pose, c'est de savoir si vous y êtes poussé par vos collaborateurs. On a dit que vous étiez débordé sur votre gauche.
Sur votre droite.
Non, je pense que tout, vous pouvez demander à tous les séminaristes ici présents et à tous les pères ici présents. Si je suis influencé par ma droite ou par ma gauche, je suis malheureusement très indépendant et je demande conseil quand même, mais j'agis d'une manière tout à fait indépendante. Et quand vous dites que c'est moi qui aurai la responsabilité de la rupture, oui et non, parce que voyez justement quelle a été l'occasion de la rupture. J'ai signé quand même ce protocole, mais c'est après, tout de suite après, que des gens ont commencé les difficultés avec le bureau de Rome, le fait qu'ils n'ont pas voulu me donner de date. Alors il a fallu que je menace par une lettre en disant, si vous ne me donnez pas de date, je consacre mes évêques. Alors ils ont consenti à ce moment-là, mais moi ça m'a suffi, je dis, même si me donne une date, maintenant c'est fini, je n'ai plus confiance, parce que je sens que maintenant il va falloir lutter chaque fois, dire, nous partons de Rome, nous quittons Rome si nous n'avons pas ça. Nous quittons Rome si nous n'avons pas ça. On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas une situation. J'aime autant quitter tout de suite, puis être libre, que d'être tout le temps en lutte, puis au bout de 3-4 mois, être obligé de quitter, ce sera pire encore. Enfin, il vaut mieux que tout de suite on arrête, et puis que nous continuions comme nous sommes maintenant, enfin, à la grâce de Dieu.
Monsieur. Oui, pour revenir à une question qui a été posée par mon collègue il y a 2 minutes, 3 minutes, est-ce que j'ai bien compris si je pense que d'ici au 30 juin, il n'y aura plus de négociations que... Bon, alors les négociations continuent et il y a la possibilité d'une réconciliation avec Rome avant le 30 juin, avant que tu prennes cette décision.
Non,
oui, monsieur.
Non, il n'y a plus rien, plus aucune possibilité. On nous a téléphoné, on m'a supplié, il faut pas faire ça, il faut pas faire le 30, il faut pas faire la consécration. Mais à tel point que même il y a un cardinal qui prie pour que je meure avant le 30 juin. Bon, ben c'est bien.
Oh, monsieur.
Si ces prières sont exaucées, la solution sera finie.
Monseigneur, deux questions. La première, pardonnez-moi de revenir indéfiniment à celle-ci, mais moi je pense que pour un certain nombre de confrères, c'est essentiel pour la suite de la manière dont nous allons rendre compte de cette conférence de presse. Je la pose différemment. Y aurait-il, ou quelle serait la condition ou les conditions que vous poseriez encore aujourd'hui pour que d'ici le 30 juin, il y ait encore une possibilité d'accord?
Non, moi je n'en pose plus de conditions. Quelle que ce soit, c'est fini.
Deuxième question, Monseigneur. Attendez de vous comprendre, de vous entendre. On a le sentiment qu'au-delà même du dossier des 4 évêques que vous vouliez consacrer, votre sentiment, votre manque de confiance à l'égard de l'ensemble des évêques de l'Église, de Rome, de Vatican II, l'ensemble des églises des évêques sur cette planète. Votre sentiment est tel que, quoi qu'il en soit, vous aviez déjà votre idée, dans la mesure où vous étiez persuadé que de toute façon, vous ne pouvez pas, de toute façon, même si vous avez vos 4 évêques, travailler avec cette église-là, et cette église-là, sur l'ensemble de la planète.
C'est donc, vrai que nous aurions...
Dans quelle mesure votre décision n'était pas déjà prise avant même cette affaire? Et dans quelle mesure l'affaire des évêques n'est pas...
C'est-à-dire l'idée qu'on se fait des évêques, elle existait déjà avant, bien sûr. Nous avons déjà, il y a longtemps, que notre idée est faite. Parce que même s'il y a quelques bons évêques, prenons actuellement le pape, en a nommé quelques-uns, comme ça, il y en a à Vienne, il y a celui maintenant de Coire, il y a Monseigneur de Dubigeon, de C, il y a Monseigneur Bagnard du Belay, n'est-ce pas, qui sont, bon, un peu, mais ils acceptent le concile, ils acceptent les réformes post-conciliaires, ils acceptent l'œcuménisme, ils acceptent le charismatisme, c'est tout à fait différent de ce que nous faisons, il n'y a pas moyen de nous entendre, c'est pas possible.
Monsieur, s'il vous plaît, une petite seconde.
Vous nous avez expliqué que tout vous sépare, et depuis longtemps, de vos interlocuteurs romains. Dans ce cas, si vous ne pouviez pas avoir la moindre confiance pour vos interlocuteurs, pourquoi avoir poussé si loin la négociation, au risque de plonger aujourd'hui une partie de votre base dans le désarroi, pour avoir entretenu l'espoir d'un dénouement heureux?
Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'était légitime de sonder un peu le Rome dans la mesure où nous pouvions. Si j'ai, par exemple, s'il y avait eu une seule parole, quelques paroles, de la part du cardinal ou de la part de ses secrétaires, dit Monseigneur, c'est bien, après la visite qui a été faite, il est certain que le travail que vous faites pour l'Église, nous reconnaissons que le travail est certainement satisfaisant et que nous avons besoin de votre présence dans l'Église, on a besoin de collaborer ensemble. Quelque chose qui nous dise, on veut collaborer ensemble, mais comme vous êtes et avec ce que vous faites, n'est-ce pas? Mais rien, pas un mot. Alors nous, moi j'avais espéré qu'on aurait sorti ça à force de discuter. Rien. Alors, pas la peine. Alors évidemment, je sais bien que ça déçoit beaucoup qui avaient prié, qui ont dit ça va venir, il y aura la Sainte Vierge, je vais faire un miracle. Mais moi, je crois que la Sainte Vierge nous a protégés de nous mettre dans les mains du cardinal Ratzinger. Parce que le cardinal, président de la commission romaine, avec 4 autres personnes de Rome, contre 2 de la tradition, eh bien, nous sommes évidemment soumis, nous serions, ils auraient été notre patron.
Si le pape vous appelle immédiatement à Rome, vous allez ou non?
Non.
Deux dernières questions. D'abord, monsieur.
Une chose que je n'ai pas compris exactement. Pourquoi, tout de suite après la signature de ce protocole d'accord, vous avez changé d'opinion sur la date élevée? Vous ne pouvez pas poser cette question le 4 mai. Pourquoi vous l'avez posée le 6 mai?
Non, on l'a posée le 4 mai.
Ah oui, et pourquoi oui. Vous avez mis votre signature? Si ça, c'était fondamental.
Ah, c'est-à-dire, c'était pas... Si vous voulez, c'était une application du protocole, vous voyez. Alors, bon, on signe le protocole. Il faut le mettre en application. La première application, la plus importante pour nous, c'était l'évêque. Alors, on se dit, on a la première demande au cardinal. Alors, quand, l'évêque? Et voilà. Pas de réponse. Pas de date. Alors, non, ça ne va pas. On dit non. Alors, plus de confiance. Fini. Ça, c'est possible. Oui, de fait, je me demande bien comment l'Esprit Saint agit actuellement. C'est un peu comme au Concile. Je crois qu'il était en vacances. Mais je veux pas discuter, vous voyez, sur la personne du pape. On discute sur ses actes. C'est parce que sur la personne, qui il est, qu'est-ce qu'il est par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qu'on dira? Qui était ce pape Jean-Paul II qui a régné pendant... Moi, je ne sais pas, je ne donne pas de réponse, je laisse la réponse au bon Dieu, je laisse la réponse à l'histoire, je laisse au bon Dieu. Mais les actes qu'il fait, alors là, ça nous concerne directement, n'est-ce pas? Son assise, et puis ses écrits, et tout ça. Alors, nous ne sommes pas d'accord du tout, n'est-ce pas? Sauf sur certains petits points, mais alors, ce sont des actes qui sont faits, par exemple, par le Père Duroux. C'est le Père Duroux qui fait la plupart des actes du Saint-Père pour les prêtres, pour les religieuses, et tout ça. Alors, Père Duroux est un homme qui a de la tradition, l'esprit traditionnel, et qui est capable de faire de très belles lettres, de très bonnes choses. Le pape lit ça, tout simplement, puis on dit, mais le pape n'est pas si moderne que ça, n'est-ce pas, etc. Mais ça, c'est le Père Duroux. C'est lui qui a fait le credo du pape Paul VI. C'est lui qui a rédigé le credo du pape Paul VI, le Père Duroux. Alors, c'est lui encore qui était à notre commission. Enfin, lui qui était président de notre commission. C'est un homme très roublard, très, 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 très fin. Et vous savez, il est d'ici, de Sion. Hein.
Alors, vraiment, deux dernières questions. Monsieur, pardon, et ensuite ici.
Juste un mot, monseigneur. On a dit qu'il y avait une liste de candidats évêques, si l'on peut dire, qui aurait été établie par monseigneur Perle, le collaborateur du cardinal Gagnon, qui incluait Don Gérard. Est-ce que c'est un...
Alors, ça, je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas au courant, en tout cas.
C'est un problème.
Monsieur.
Monseigneur, il nomme dei due vescovi che verranno con lei gli altri.
Les due vescovi?
Sì, che verranno qua il 30 di giugno con lei.
Non, mais c'est uno vescovo qui venait, lequel le conseiller Antonio de Castromayer.
Et Vasiliano.
Et Vasiliano, si, si.
Consacrera anche lui.
Si, 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 si.
La conférence est maintenant terminée. Je voudrais vous donner deux avis pratiques. Il manquait quelques feuilles.
Vous avez donc un dossier préparé qui répond aux questions qui peuvent se poser à. Après cette annonce, n'est-ce pas, d'un sacre d'un évêque au Brésil?
Oui, la première question que j'aurais, monseigneur Follet, c'est quelle raison persiste?
Bien, nous répondons, ou plutôt nos évêques, enfin, les évêques de la fraternité, répondent à l'appel urgent des fidèles et du clergé des Campos, qui, après la mort de monseigneur Castromayer, a perdu leur père spirituel, leur soutien moral. Dans la fidélité, dans ce combat pour la fidélité, la messe, pour la foi. Et il était donc urgent et nécessaire de penser à un sacre, n'est-ce pas, pour justement continuer cette magnifique œuvre qui se fait jour par jour à Campos.
Mais pourquoi avez-vous choisi cette consécration et d'annoncer cette consécration à la veille du jour où l'Église de Rome va consacrer un cardinal, à Sion.
Bon, alors, permettez-moi tout d'abord de dire qu'un cardinal, c'est créé, il n'est pas sacré, ça. Bon. Mais ensuite, parce que c'était prévu depuis longtemps, premièrement, qu'il y ait l'ordination de prêtre le 27 juin, n'est-ce pas? Et ensuite, c'était accordé avec les prêtres de Campos qu'à cette occasion, on annoncerait, n'est-ce pas, le sacre d'un évêque à Campos. Donc c'est ensuite, c'était Rome, toi qui a fixé cette date pour le consistoire, pour Timan les 28. Donc nous avons choisi la date longtemps avant. Donc ça ne dépend pas de nous.
Vous persistez dans la voie du schisme, ça veut dire que vous allez créer une église parallèle à l'église de Rome, avec une hiérarchie qui sera la vôtre.
Bon, alors à cette question, cette objection, répond très bien, n'est-ce pas, une petite exposé. Ici, la temps que vous trouvez, ici, dans ce petit dossier, eh bien, nous refusons catégoriquement de parler d'un schisme ou de voir un schisme, n'est-ce pas, dans cet acte de consécration du 30 juin 1988. C'était ni un acte schismatique, ni un schisme, ni l'établissement d'une église parallèle. C'était, comme disait Mgr Lefebvre, n'est-ce pas, l'opération survie pour la foi catholique, pour le saint sacrifice de la messe et les sacerdotes catholiques. Pas plus, pas moins. Et nous persistons, oui, dans cette action survie. Nous persistons et nous continuons.
Le pape Jean-Paul II, après ses déclarations en Pologne et ses récents voyages, a fait des déclarations qui sont particulièrement dures et qui sont perçues en tout cas en France comme des paroles très réactionnaires. C'est une ligne qui devrait vous faire plaisir à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien, nous étions très satisfaits, en effet, n'est-ce pas, des déclarations du pape au sujet de l'avortement, n'est-ce pas, de ses propos qu'il a tenus en Pologne. Mais enfin, le problème n'est pas seulement un problème de morale, mais tout d'abord un problème de doctrine, un problème de foi, un problème donc qui est plus profond, c'est pas que les conséquences sur le domaine de la discipline et de la morale. Par exemple, c'est pas l'événement d'Assise, quand le pape a réuni toutes les religions, n'est-ce pas, pour prier pour la paix, eh bien, c'est un événement et un acte inadmissible. C'est un péché contre le premier commandement du décalogue. Et alors, c'est ça où il est le problème dans cet écuménisme faux, néfaste, qui ruine vraiment l'Église, qui ruine même la notion de la vérité, dans cette laïcisation des États et toute la société chrétienne, et dans la transformation de toute la liturgie catholique, n'est-ce pas, dans une liturgie écuménique et protestante. Et alors, malheureusement, le pape ne réalise pas qu'il y ait, par exemple, un lien très étroit entre, pour prendre un exemple, entre la communion à la main et l'avortement. Dans ce sens, n'est-ce pas, celui qui ne respecte plus, n'est-ce pas, Dieu, et les choses les plus sacrées dans l'Église, n'est-ce pas, la présence réelle, eh bien, il mine, par le fait même, également le respect pour la vie. Bah, alors, vous voyez, n'est-ce pas, notre problème est tout d'abord un problème dogmatique.
J'aurais peut-être une question. La première, est-ce que le successeur de Mgr Maillard a été nommé déjà ? On connaît la personne qui va le succéder ?
Oui, on connaît bien la personne, mais nous laissons ça au prêtre de Campos d'annoncer donc le choix du candidat, parce que c'est pas nous qui ont choisi le candidat, c'était Mgr de Castromaille et ensuite son clergé qui ont fait ce choix. Et donc c'est à eux, n'est-ce pas, de révéler le nom qu'ils vont probablement faire aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que c'est une action bien un accord, quoi, n'est-ce pas.
C'est une personne d'ici ?
Non, c'est un de clercs, n'est-ce pas, de Campos. N'est-ce pas, ça n'a rien à faire avec la fraternité, ou cela a seulement à faire avec la fraternité, dans ce sens que ce sont les évêques, c'est pas sacré par Mgr Lefebvre, c'est pas qui vont sacrer donc un évêque, n'est-ce pas, à Campos, n'est-ce pas, et du clergé de Campos, n'est-ce pas. La fraternité en tant que telle n'est pas impliquée.
C'est suffisamment souligné, disons, dans le document qu'on a reçu. Oui, il y a désir de vouloir séparer.
Oui, alors ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes, parce que la fraternité n'a ni un pouvoir universel, ni une domination sur d'autres communautés, n'est-ce pas, mais les évêques en tant qu'évêques catholiques ont évidemment un rôle à jouer dans l'Église et un rôle spécialement à jouer pour la sauvegarde de la foi. Alors, ils prennent leurs responsabilités, ils s'engagent, oui, pour remplir une mission qui est une mission extraordinaire, dans des temps extraordinaires, n'est-ce pas ? Et voilà, qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de répondre à cet appel du clergé, du campus et des fidèles. Et c'est au moins, il faut réaliser les choses, n'est-ce pas ? C'est au moins 60%, peut-être plus, peut-être 70%, n'est-ce pas, peut-être même encore plus, de troupeaux fidèles, n'est-ce pas, de campus, donc de toutes les fidèles de campus, qui suivent, n'est-ce pas, les prêtres qui sont restés avec Mgr Castromeyer. Donc la grande majorité. Or, c'est inconcevable que ces gens-là soient privés d'un pasteur, pas quand même. C'est un droit naturel, il y a un droit qui découle spécialement, n'est-ce pas, du devoir d'écarter la foi.
Pour revenir peut-être à la nomination de Mgr Chevalier cardinal à Rome, il n'y a eu aucune réaction de la Fraternité Saint-Félix, des cônes, que personne n'a réussi à obtenir. Une réaction de votre part, comment ça a été ressenti parmi vos fidèles, valaisans plus particulièrement ?
Monsieur de Rignolo, est-ce que vous voulez répondre ? Parce que vous êtes plus proche ici, n'est-ce pas, des fidèles valaisans.
La nomination de Mgr Chevalier comme cardinal, évidemment, a surpris tout le monde, mais ce n'est pas plus spécialement nos fidèles que l'ensemble des catholiques du Valais. Donc, cela a été ressenti, je dirais, avec plus ou moins d'indifférence. Il est clair que cela a créé une certaine surprise, mais qui ne nous était pas trop. Et quant aux causes, eh bien, je dirais que ce n'est pas à nous de les donner. Beaucoup de personnes ont pensé que la présence des cônes n'était pas étrangère à cette nomination, c'est bien possible. Mais ce n'est pas à nous de le dire ou de l'inventer, si je puis dire. Rome a ses raisons. Si Rome n'a rien dit de particulier, ce n'est pas à nous de répondre à sa place.
Mais il faut dire que nous avons profondément regretté que le cardinal Chevalier ait pris position pratiquement immédiatement contre son collègue Haas, n'est-ce pas, à croire. C'était une chose invraisemblable, n'est-ce pas, après qu'il y ait eu cette tentative de réconciliation, n'est-ce pas, et que le pape ait appuyé Mgr Haas, n'est-ce pas, pendant la réunion des évêques suisses, n'est-ce pas, à Rome. C'est quand même un peu étonnant que nommé cardinal, il ne sait pas mieux faire que donner le conseil à Mgr Haas de démissionner.
Il y a eu un communiqué, disons, interprétation journalistique douteuse, mais...
Oui, enfin...
Et quel est le bilan 3 mois après la mort de Mgr Lefebvre? Est-ce que quelque chose a changé ici? Je parle par exemple du Valais. Vous avez senti une différence dans la foi des Valaisans
D'après ce que je peux dire, partout, pas seulement ici en Valais, mais partout en Suisse, partout en Europe, partout dans les autres districts où nous sommes établis, bien les choses ont exactement continué comme avant. Il y a eu une grande union, c'est pas, entre nos fidèles, et entre les clergés, entre les prêtres de la fraternité, une grande union. Et ce qui est étonnant, c'est que 2 séminaristes qui nous ont quittés, c'est pas, après le sacre, soient retournés à la fraternité après la mort de Mgr Lefebvre, n'est-ce pas, qui nous ont quittés pour joindre la fraternité Saint-Pierre, n'est-ce pas, reconnue par Rome, le Barou. Et donc, il y a plutôt un certain mouvement, mais enfin, plutôt un petit mouvement, n'est-ce pas, de retour.